29 septembre 1364, la bataille d'Auray. Les deux chefs de guerre le savent, cette bataille sera celle du jugement. Jean de Bretagne, exilé et formé à la cour d'Angleterre, forgé dans les campagnes du prince noir, est devenu un guerrier accompli, un chef résolu. À 24 ans, il combat pour sa légitimité, pour l'honneur d'un nom qu'on a voulu effacer. Face à lui se tient Charles de Blois, prince pieux, animé d'une foi inébranlable, épaulé par Bertrand du Guesclin, surnommé « le dogue noir de Brocéliande ». C'est leur première confrontation directe. Cette fois, il n'y aura ni trêve, ni négociation. Seule la victoire décidera du destin de la Bretagne. Les troupes montfortistes, sous la conduite de John Chandos, l'un des meilleurs capitaines anglais, se positionnent sur les hauteurs de Rostevel, dominant le château d'Auray, pour éviter d'être pris en tenaille. Charles de Blois installe ses hommes sur la rive opposée, du côté de Breck, le cœur gonflé de certitude, presque serein, il croit en la justice de sa cause et en l'aide divine. Pas de trêve. Pas de paix. Ce jour sera celui du jugement de Dieu. Le 29 septembre, les deux armées s'élancent. Le choc est brutal. Les épées hurlent, les flèches pleuvent, les cris des mourants se mêlent aux clameurs des vivants. Le sol devient boue. La boue devient linceul. Du Guesclin charge, inflexible. Jean de Bretagne, visière abaissée, épée brandie, s'engage au cœur de la mêlée, aux côtés d'Olivier V de Clisson, son frère d'armes et compagnon d'exil. Il lutte avec la noblesse du chevalier et la rage du désespéré, brise les rangs ennemis. Sa présence galvanise le courage de ses hommes, insufflant force et espoir au milieu du chaos. Charles de Blois se lance dans la bataille avec une ardeur mystique. Il frappe pour sa foi, pour le duché. Il croit en sa victoire, et sa détermination décuple sa force. Les deux prétendants se battent héroïquement. Mais au cœur du carnage, Charles tombe. Son armure est brisée, son corps transpercé. Son sang se répand. Le duc meurt, et avec lui s'éteint l'espoir de la maison de Penthièvre. Du Guesclin se rend au capitaine anglais, c'est la débâcle du côté franco-breton. Jean de Bretagne sort victorieux, mais son triomphe porte l'ombre d'un lourd tribut. Ainsi s'achève la bataille d'Auray. Non par un traité, non par la paix, mais par le sang versé de milliers d'hommes. 1365, le traité de Guérande, une paix sans triomphe. Après 23 années de guerre civile, la Bretagne s'apprête à refermer l'un des chapitres les plus sanglants de son histoire médiévale. Il faut désormais négocier un traité de paix acceptable par tous. Le 12 avril 1365, les négociations aboutissent à la signature du traité de Guérande, mettant officiellement fin à la guerre de succession de Bretagne. Ratifié l'année suivante, en 1366, par le roi de France Charles V, ce traité reconnaît Jean IV comme seul duc de Bretagne, mais évite l'humiliation de la partie vaincue. Il souligne la ténacité de Jeanne de Penthièvre et son attachement indéfectible à l'unité bretonne. Les droits des vaincus sont respectés, et une amnistie générale est proclamée. Le traité précise également les règles de succession pour éviter toute nouvelle crise, le duché reviendra aux héritiers mâles de la lignée des Montfort. S'il n'y a plus d'héritier mâle, il passera à la branche Blois-Penthièvre, par le fils aîné. En l'absence totale d'héritier mâle, les filles pourront hériter. À l'automne 1366, Jean IV se rend à Paris pour prêter hommage au roi de France. Il rend hommage pour ses terres situées en France, mais se limite à un hommage simple, vague et prudent, pour le duché de Bretagne. Ce choix de formule, maintenu par ses successeurs, marque une volonté de préserver l'autonomie du duché face à la couronne française. Le traité de Guérande apparaît comme un compromis politique visant à mettre fin à une guerre civile meurtrière. Si l'unité du duché est sauvée, les fractures politiques et dynastiques, elles, ne disparaissent pas pour autant, extrait du traité de Guérande par Laurence Moille, novembre 2016.